بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين. الحمد لله الذي يسبح بحمده الأولون والآخرون. الحمد لله الذي يقول للشيء كن فيكون. الحمد لله الذي بكت من خشيته العيون وسجد له المصلون وصام له الصائمون وقام له القائمون. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه من إله جل وعلا، وعذب اسمه في الأفواه وحلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم، وسدد الله خطاكم، وجعل الله الجنة مثواكم. حياكم الله أينما كنتم، وجعلكم مباركين أنتم وأهليكم، وجزانا الله وإياكم خير الجزاء عن الحضور والجلوس والاستماع والاستفادة. يسرني مرة أخرى ويطيب لي أن ألتقي بإخواني الفضلاء في هذه المدينة، في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الأنبياء والمرسلين وإمام الأصفياء والمتقين في أعلى درجات الخلد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إذا أراد المحاضر أن يلقي كلمة في موضوع ما، احتاج إلى البحث في القواميس والمراجع المختلفة والمصادر المنوعة ليجد ما يقود به كلامه. فإذا أراد المحاضر أن يتكلم عن الله تبارك وتعالى، أو أن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، تسابقت الكلمات إلى شفتيه واحدة تلو الأخرى بدون مشقة أو عناء، كما تسابقت النياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد نحرها. فقد أخبرتم أن موضوع الكلمة الليلة بإذن الله فيما يخص محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدل على ذلك من صورة حقيقية وأمثلة عليا ضربها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأصحاب القرون المفضلة. فسنتجول خلال هذه اللحظات بإذن الله فيما روي لنا من هذه الأخبار، وسنقارن بين ما ندعيه لأنفسنا محبة، وكيف كانت محبة هؤلاء الأخيار. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يجمعنا أو أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Mes chers frères, une fois de plus, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, mon cœur déborde de joie et de réjouissance à me réunir avec vous dans cette ville, la ville de Toulouse, cette mosquée bénie, bi'idhnillah, afin que nous vivions ensemble quelques instants dans lesquels nous espérons que notre foi augmentera. Mes très chers frères, lorsqu'un conférencier prépare son discours, quel que soit le thème abordé, il a besoin de nombreuses références dans lesquelles il va puiser ses sources. Il a besoin de nombreux dictionnaires et d'encyclopédies dans lesquelles il va chercher à éclaircir des sens qui peuvent lui paraître confus. Mais lorsque le conférencier choisit comme thème de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son messager alayhi salat wa salam, alors les mots se bousculent à ses lèvres sans qu'il n'ait besoin de réfléchir. Comme les chamelles se sont bousculées devant le prophète alayhi salat wa salam pour que l'une d'entre elles soit la première à être sacrifiée par le prophète alayhi salat wa salam. Mes frères, nous allons parler ensemble, comme vous l'avez entendu, de l'amour que l'on doit porter au prophète alayhi salat wa salam. Et le meilleur moyen de savoir comment il doit être, c'est de voir comment était celui des meilleures personnes que cette terre ait portées après les prophètes et les messagers. C'est de voir cet illustre exemple que nous a donné les compagnons radiyallahu anhum et ceux qui ont vécu dans les meilleurs siècles de cette communauté. Comment est-ce qu'ils ont aimé le prophète alayhi salat wa salam? Et qu'on compare, que l'on compare entre ce que nous appelons et prétendons être de l'amour et ce que eux n'appelaient et ne prétendaient pas mais vivaient et faisaient vivre. C'est ça le but, mes frères. Le but, ce n'est pas de raconter des histoires, de, comme on dit, tuer le temps, alors que la seule chose que tu tues, c'est ton âme et ton cœur. Ce n'est pas ça le but. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous dit que le but des histoires, c'est de donner des leçons de moralité. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Il y a certes dans leurs histoires, dans leurs récits, des morales pour les doués d'intelligence. ما كان حديثا يفترى. Ce n'est pas une histoire qui a été inventée. ولكن تصديق الذي بين يديه. Donc ces histoires que nous allons voir ensemble, qui sont tirées d'ouvrages historiques authentiques, vont nous montrer comment ces gens-là ont aimé le prophète alayhi salat wa salam. Et comment nous on l'aime. Ya'lamu ayyuhal ikhwa, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ashara biyadihi ila al-qamar fanshaqqa nisfayn بيانا لنبوته وأشار بيده إلى الغمام فتفرقت امتثالا لأمره وصعد أحد فتزعزعت فرحت لحمله فرحا لحمله وصعد الجذع وخطب عليه ثم تركه فحن إليه هذا الجذع حن إليه هذا الجذع شفقة لما كان يلقى عليه من هذه الكلمات النيرات. وكل ما سبق ذكره من المخلوقات أشياء جامدة لا روح فيها، ورغم ذلك تجلى فيها محبة، تجلت فيها محبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر في طريق فيسمع الحجر يسلم عليه، ويرى الشجرة تسجد بين يديه. فإذا علمنا ذلك كيف ينبغي للمؤمن أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في محبته وتعظيمه وإجلاله، لا يخفى على أحد أن الله تبارك وتعالى أوجب علينا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي محبة شرعية لا يكتمل إيمان العبد إلا بها. ولا يخفى على أحد أن الازدياد بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم خلال صفاته الخلقية وصفاته الخلقية وما جبل عليه من عظيم الصفات يجلب للزيادة من المحبة له ولا بد. ولذلك كانت معرفته عليه الصلاة والسلام الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. قال الله عز وجل في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والأحاديث الدالة على خلقه الرفيع وآدابه أو آدابه السامية أشهر من أن تشهر وأكثر من أن تحصى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي كل عام في عيد الأضحية أو في عيد الأضحى بكبشين أملحين، فإذا ضحى بالأول قال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. وإذا ضحى بالثاني قال: اللهم هذا عن أمة محمد، أو على من لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فأنت أيها العاجز على أن تضحي في يوم العيد لا تقلق ولا تحزن، فقد ضحى عليك النبي صلى الله عليه وسلم شفقة لك وهو لم يلتقي بك. وقد صح في الخبر أن الناس يوم القيامة يصيبهم من الهم والغم ما الله به عليم، فيستشيرون أو فيتشاورون ويقررون بأن يتوجهوا إلى آدم ليشفع لهم عند الله تبارك وتعالى ليبدأ الحساب، فيذهبون إليه فيرفض قائلا: نفسي نفسي. ثم يذهبون إلى نوح فيرفض قائلا: نفسي نفسي. ثم إلى إبراهيم وموسى وعيسى، كلهم يقولون كما قال أسلافهم: نفسي نفسي. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رحب بهم واستقبلهم قائلا: أمتي أمتي. فالذي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن له ألا يحبه. فإذا التقيت بمسلم من المسلمين في الشارع أو في المسجد أو في مكان ما وسألته: يا عبد الله، هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيجيبك على الفور: طبعا وكيف لا. فكما قرر ذلك أهل العلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين راجحة، ولكن تتفاوت تلك المحبة بحسب مراتب إيمانه، تتفاوت تلك المحبة من الشخص إلى الآخر بحسب ما عندهم من الإيمان. ولنعلم ما هي أعلى هذه المراتب، فلننظر إلى من كان إيمانه أقوى وأعظم، ألا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم قدوتنا وأسوتنا، وأمرنا باقتداء آثارهم وباتباع آثارهم. قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب اتباع سبيل المؤمنين، أعني بهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un signe vers la lune de sa main, et voici qu'elle s'est fendue en deux, pour montrer la véracité de sa prophétie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pointé les nuages d'un de ses doigts, et voici qu'ils s'éparpillèrent ici et là en réponse à son ordre. Et voici qu'il gravit la montagne de Uhud avec lui Abu Bakr, Omar et Uthman. Et voici qu'elle se met à trembler, tellement elle a éprouvé une joie immense à porter sur elle le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les meilleurs des êtres humains après les prophètes. Et le prophète alayhi salatu wa sallam faisait les sermons du vendredi et ses discours sur un tronc d'arbre qui lui a été préparé dans la mosquée. Plus tard, on lui a façonné dans du bois une chaire, un minbar, et on a mis le tronc d'arbre de côté dans la mosquée. Et un jour, pendant que le prophète, alayhi salatu wassalam, était sur cette chaire à parler aux compagnons, radiyallahu anhum, voici que tout le monde fut surpris d'entendre des sanglots, des cris émettre, parvenir de ce tronc d'arbre, comme les bébés des chamelles lorsqu'elles perdent leur mère. Et ce bout de bois se mit à pleurer parce que il lui tardait, il lui manquait d'entendre les paroles du prophète alayhi salatu wassalam comme il les entendait quand il était sur lui. Et toutes ces choses que nous venons de citer, mes frères, sont des choses, entre guillemets, qui n'ont pas d'âme. La lune, les nuages, la montagne, un tronc d'arbre. Et regardez comment ils ont manifesté l'amour qu'ils avaient envers le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a aussi été rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wassalam, lorsqu'il marchait dans la rue, entendait les pierres lui passer le salam. Comme il a été rapporté aussi qu'il voyait les arbres se prosterner devant lui. Des objets dénués d'âme et de raison réagissent ainsi. Comment alors les croyants qui sont faits d'eau, de chair, de peau et d'âme et de cœur qui portent la foi dans leur poitrine, comment est-ce que eux ils devraient réagir alors envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'amour qu'il lui porte? Le fait d'aimer le prophète alayhi salatu wa sallam, mes frères, est un devoir pour chaque croyant. C'est un amour obligatoire qu'on ne peut délaisser. Et sachez que personne n'atteindra la perfection de la foi et sa complémentarité que lorsqu'il aimera le prophète alayhi salatu wa sallam. Allah dans le Coran nous dit: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله من القرآن نجي جي يعني أو محمد زيلر سي vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos tribus, vos familles, un bien que vous avez acquis, un commerce dont vous craignez le déclin, et des demeures que vous avez, que vous habitez, que vous agréez pour vous-même, vous sont préférés qu'Allah, à Allah, à son messager et à la lutte dans son sentier. Alors attendez jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive et Allah ne guide pas le peuple des pervers. Le prophète dit alayhi salatu wassalam: la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa an-nas ajma'in. Nul d'entre vous ne croira véritablement que lorsque il m'aimera plus que ses parents, que ses enfants et que tout le monde. Et toi, quand tu vas voir les gens parmi les musulmans et tu leur demandes: est-ce que tu aimes le prophète alayhi salat wa salam? Alors automatiquement et instantanément, il te répondra: mais bien sûr. Qui parmi les musulmans, qui parmi les croyants va te répondre non? Personne. Pourtant, cet amour que tout le monde porte dans son cœur sera différent d'une personne à l'autre en fonction bien sûr de sa foi. Donc plus la foi de quelqu'un sera faible et plus l'amour qu'il aura envers le prophète alayhi salatu wassalam sera faible, même s'il prétend le contraire. Alors voyons les personnes qui avaient la foi la plus forte, la plus forte et la plus élevée de cette communauté. Comment ils aimaient le prophète alayhi salat wa salam? Qui sont-ils? Les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Ces hommes qui ont accompagné le prophète alayhi salat wa salam et qui ont sacrifié pour lui temps, argent et famille. Plus encore, vie. Ces hommes et ces femmes qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a obligés de suivre et de prendre comme modèle. Allah ta'ala dit dans le Coran: et quant à ceux qui ont devancé parmi ceux qui ont émigré et les auxiliaires, les Mécois et les Médinois, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran: et quant à celui qui s'oppose au messager après que lui soit venu la guider et qui suit un chemin autre que celui des croyants, l'ayah. Et les croyants ici, ce sont les compagnons radiyallahu anhum, ce n'est pas n'importe qui. Et Allah dans le Coran il dit: si ils croient comme vous avez cru, alors ils seront guidés. Comme vous avez cru qui? Les compagnons radiyallahu anhum. Le prophète nous dit alayhi salatu wassalam: fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di. عضوا عليها بالنواجذ. Vous vous devez de suivre ma sunnah, ma voie, ainsi que celle des successeurs bien guidés qui viendront après moi. Il n'y a aucun doute chez les savants qu'il s'agit d'Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Accrochez-vous-y à pleines dents. Quand il a dit, alayhi salatu wassalam, اقتدوا باللذين من بعد أبو بكر أو أبي بكر وعمر. Suivez les deux qui seront après moi, Abu Bakr et Omar. Et les hadiths sont très nombreux, et les versets sont très nombreux, qui nous indiquent cette obligation de suivre les compagnons radiallahu anhum, wardahum. طيب وكما قلنا وقررنا أو تقرر عندنا أن خيار هذه الأمة بل خيار البشر بعد الأنبياء والمرسلين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلننظر إلى أفضلهم ألا وهو عبد الله ابن أبي قحافة عتيق المعروف بأبي بكر الصديق رضي الله عنه فلقد ضرب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أروع الأمثلة لصدق المحبة في غير ما موقف فلنضرب على سبيل المثال حديثا يذكر لنا قصة رحلة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من مكة إلى المدينة مهاجرين إلى الله عز وجل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ومعه أبو بكر ولقد تصرف بأمور عجيبة فكان بين الحين والآخر يتقدم بين يديه أي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يمشي خلفه وتارة يمشي عن يمينه وتارة يمشي عن يساره بقي وهلة من الوقت والزمان عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم لينتقل بعد ذلك عن يمينه وبعد قليل إذ به يتقدم بين يديه وبعد لحظة إذ به يمشي خلفه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تفعل؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أذكر الرصد فامشي بين يديك ثم أتذكر الطلب فامشي خلفك ثم أتوجس من الكمين فأمشي تارة عن اليمين وتارة عن اليسار كان أبو بكر يخاف من الأعداء التي أو الذين يحيطون وقد يأتون من كل مكان فكان يفدي بنفسه ويدور حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن قدر أنهم هجموا كان أول مصاب رضي الله عنه وارضاه. Mes frères, si on parle des meilleurs êtres humains, qui sont les compagnons radiallahu anhum, et insistons bien sur ce point. Quand on dit les meilleurs êtres humains, c'est-à-dire de la création. Après les prophètes et les messagers, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier homme sur lequel l'heure dernière se dressera, les meilleurs êtres humains qui ont été créés sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a personne de meilleur qu'eux. Ni les compagnons de Noé, ni les compagnons de Moussa, ou bien d'Ibrahim, ou bien de Issa, quiconque. Personne n'est meilleur qu'eux. Et le meilleur de tout cela, c'est-à-dire des compagnons radiallahu anhum, c'est Abdullah ibn Abi Quhafah Atiq, celui que tout le monde connaît sous le nom d'Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu. Il a été rapporté dans les textes que si on mettait la foi d'Abu Bakr radiyallahu anhu sur le côté d'une balance et la foi de toute la Ummah sur l'autre, eh bien le côté où il y a la foi d'Abu Bakr l'emporterait sur l'autre. Abu Bakr radiyallahu anhu nous a démontré à maintes reprises à quel point il aimait le prophète alayhi salat wa salam. C'est-à-dire que les textes nous montrant cela sont très nombreux. On va juste citer à titre d'exemple l'épisode de la hijra, de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. D'ailleurs, avant de partir, le prophète alayhi salat wa sallam désignait les musulmans groupe par groupe et quittait la Mecque petit à petit. Et Abu Bakr nourrissait secrètement au fond de son cœur l'immense espoir d'être le compagnon du prophète alayhi salat wa sallam pendant ce voyage. Et voici qu'un jour le prophète annonce à Abu Bakr qu'Allah lui a permis de partir. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu, il regarde avec les yeux pleins d'espoir et lui demande: As-suhbata ya Rasulallah? Est-ce que je peux t'accompagner ya Rasulallah? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: Naam. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu, comme nous le rapporte Aïcha sa fille radiyallahu anha, a pleuré de joie. Et Aïcha radiyallahu anha, elle a dit: je ne savais pas qu'un homme pouvait pleurer de joie jusqu'au jour où j'ai vu mon père pleurer ce jour-là. Ils partent. Et le prophète alayhi salatu wassalam au départ, ainsi qu'Abu Bakr, n'avait pas de monture. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam voit de la part d'Abu Bakr des mouvements étranges. Il voit qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, il voit qu'Abu Bakr radiyallahu anhu marche une fois devant lui, un moment, pour passer après derrière lui. Et un peu plus tard, voici qu'il passe à sa droite. Et un peu plus tard, voici qu'il passe à sa gauche. Alors le prophète alayhi salatu wassalam l'interroge. Il lui dit: Ya Abu Bakr, mais qu'est-ce que tu fais? Alors Abu Bakr radiyallahu anhu, il dit: je pense aux espions, alors je marche devant toi. Ensuite, je pense aux mercenaires. Parce que quand le prophète et Abu Bakr ont quitté la Mecque, les notables de Quraysh ont promis une forte récompense à celui qui les ramènerait à la Mecque, mort ou vif. Abu Bakr dit: je pense aux mercenaires et je marche derrière toi. Et je me rappelle de ceux qui se postent en embuscade à droite et à gauche. Alors je marche à ta droite et je marche à ta gauche. Abu Bakr radiyallahu anhu craignait qu'une attaque arrive de front, ou bien des côtés, ou bien de derrière. Alors il passait son temps à tourner autour du prophète alayhi salatu wassalam, dans le cas où, si une attaque était lancée, ce serait lui qui prendrait l'attaque à la place du prophète alayhi salatu wassalam. Mes frères, vous savez que les moments les plus difficiles sont les moments où la personne est touchée dans ce qu'elle a de plus cher. Et ce qui est le plus cher à ta personne, mon frère, c'est ta personne. Et sachez que dans les moments les plus dangereux, les plus périlleux, qui sont la guerre, eh bien, les compagnons, radiyallahu anhum, de nombreuses fois ont prouvé que leur personne n'avait aucune valeur à leurs propres yeux, à côté de celle du prophète, alayhi salatu wassalam. Lisez dans Sahih al-Bukhari, les hadiths qui sont rapportés et qui nous décrivent comment la bataille de Uhud a eu lieu. Cette bataille sur laquelle les musulmans n'étaient pas en minorité par rapport à la bataille de Badr qui les a précédés. Cette bataille où les musulmans ont subi une défaite et dont la plupart des participants se sont enfuis, laissant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec lui quelques-uns de ses compagnons seuls au milieu du champ de bataille. Et là, ces hommes, na'am, des hommes, nous tous ici, on va nous dire, on va dire lorsqu'on nous demandera, c'est un homme ou une femme, tu répondras directement, je suis un homme. Mais, en vrai, on devrait tous dire, on est des mâles. Parce que là-dessus, personne ne pourra te dire le contraire. Physiquement, tu ressembles à un mâle. Et dans tes caractères et tes attitudes, tu es un mâle. Maintenant, est-ce que tu es un homme? Et quand je dis homme, je parle de ce mot qu'Allah a employé pour décrire les compagnons, radiyallahu anhum. Qala subhanah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alayh. Faminhum man qada nahbah, wa minhum man yantadir, wa ma baddalu tabdila. Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont tenu leur engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des hommes. وَلَقَدَ صَدَقَ مَنْ قَالْ كُلُّنَا ذُكُورٌ فَهَلْ كُلُّنَا رِجَالٌ. Nous sommes tous des mâles. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que nous sommes tous des hommes? Les hommes, mes frères, c'est dans ces moments-là qu'on les reconnaît. Et c'est dans ces moments-là qu'on a vu les hommes parmi les compagnons radiyallahu anhum qui étaient tous autour du prophète alayhi salatu wassalam à le protéger. Et lorsque une attaque de la part des mécréants et en particulier de leurs archers a été lancée sur le prophète alayhi salatu wassalam, voici que un parmi eux, ani les compagnons, s'est jeté sur le prophète pour le protéger avec son dos. Le rapporteur, il nous dit, il avait tellement de flèches plantées dans le dos qu'on aurait dit un hérisson. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se contentait pas de rester derrière, mais il participait à la bataille. Et voici qu'un mécréant farouche s'approche du prophète alayhi salatu wa sallam et lui assène un coup au visage tellement violent qu'une des parties de son casque s'est encastrée dans une de ses joues. Le prophète, alayhi salat wa salam, la meilleure des créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est celle qui aime le plus, est blessée au visage et son sang coule. Abu Bakr radiallahu anhu, qui est présent, se précipite vers le prophète, alayhi salat wa salam, pour lui venir en aide. Mais il voit une ombre, une silhouette, fondre sur lui tel un aigle sur sa proie. Alors il a peur. Il dit Allahumma ja'alhu khayra, ya Allah, fasse que ce soit un bien. Et là il s'approche de lui, dans le cas où ce serait un ennemi, et il reconnaît Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ou Ibn al-Jarrah radiallahu anhu. Et là, voici qu'Abu Ubaidah radiallahu anhu implore Abu Bakr de le laisser aider le prophète, alayhi salatu wassalam. Parce qu'il savait que c'était Abu Bakr le premier à vouloir faire cela. Mais Abu Ubaidah aussi voulait prouver l'amour qu'il avait envers le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors Abu Bakr l'a laissé. Et Abu Ubaidah, radiyallahu anhu, s'est servi de ses dents pour déloger la partie du casque. C'était encastré dans sa joue, la joue du prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'il y ait laissé ses canines. Et avant la bataille, le prophète, alayhi salatu wassalam, vérifiait les rangs des compagnons, radiyallahu anhum, comme lui-même vérifie les rangs des croyants lorsqu'il s'apprête à faire la prière. Parmi eux, un homme du nom de Sawad ibn Aziyya, radiallahu anhu, qui n'était pas bien positionné dans le rang. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, passait dans les rangs avec un bâton et poussait ceux qui étaient trop en avant. Lorsqu'il arrive au niveau de Sawad, il le pointe de son bâton au niveau de la poitrine et il le pousse. Et il lui dit, rentre dans le rang, ya Sawad. Alors Sawad, radiallahu anhu, il lui dit, ya Rasulallah, لقد أوجعتني ولقد بعثك الله تبارك وتعالى بالحق فأعطني حقي. السواد دي يا رسول الله tu m'as fait mal et Allah Ta'ala il t'a envoyé avec l'équité et la justice, alors donne-moi mon droit. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam yakshifu an batnihi al-sharif wa yakulu ya Sawad khud haqqak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dévoile son ventre et dit à Sawad, oh Sawad, prends ton droit. Fais-moi mal comme je t'ai fait mal. Alors Sawad radiallahu anhu, on lance le ventre du prophète alayhi salatu wassalam et se met à l'embrasser. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, que fais-tu ya Sawad? Sawad radiallahu anhu lui dit, ya Rasulallah, c'est la bataille, c'est la guerre. Et peut-être qu'aujourd'hui, je vais quitter ce bas monde martyr. Et peut-être qu'aujourd'hui, je vais quitter ce bas monde martyr. Je voulais que mon dernier souvenir avec toi soit que ma peau touche la tienne. On a un compagnon du nom de Khubayb ibn Adi, radiallahu anhu, qui s'est fait emprisonner par les notables de Quraysh après la bataille de Badr. Et comme vous le savez, les notables de Quraysh ont essuyé une défaite cuisante lors de la bataille de Badr contre les musulmans. Alors ils se sont dit, on va se venger de Muhammad et des musulmans dans la personne de Khubayb. Alors, premièrement, ils l'ont emprisonné une longue période sans lui donner à boire ni à manger. Ils ont voulu l'éprouver avec la faim. Et une des femmes qui s'occupait de le surveiller disait, wallahi, j'ai vu Khubayb manger dans une grappe de raisin, alors que ce n'était pas la saison où on trouvait du raisin à Mecca. Ils l'ont empêché de boire et de manger, et ils trouvent avec lui des fruits qui ne poussent pas dans cette saison et que l'on ne trouve pas à Mecca pendant cette période de l'année. Ils l'enchaînent, le menotte, lui met un carcan et ordonne aux femmes et aux enfants de le pousser jusqu'à At-Tan'im, qui est une banlieue de la Mecque. Pour ceux qui ont déjà été faire le pèlerinage, Il voit à peu près ça combien de kilomètres du haram. Masjid Aïcha, comme on l'appelle aujourd'hui. Alors il a marché mukabbalan bi quyoudi wa akuffu al-atfal wal-nisa tadfa'uhu ila sahat al-maut. Lorsqu'ils arrivent, ربطوه بخشبة الصلب. Ils l'ont lié à une planche. وقاموا بتمثيله حيا. Et ils se mirent à le mutiler vif. Comment? بقطع أعضائه واحد تلو الآخر. En coupant chacun de ses membres les uns après les autres. On commence par les doigts. Pour arriver au poignet, pour arriver au coude, pour arriver à l'épaule. Après, on passe au second bras. Après, on passe au pied. Et lui, il est vivant par avant. Il est vivant parmi eux. Et Abu Sufyan, qui n'était pas encore musulman, s'approche de Khoubaïb, radiallahu anhu, et lui dit, أتحب أن تكون آمنا في أهلك ومحمد مكانك. Il lui dit, est-ce que tu aimerais être en sécurité avec ta famille et Mohammed est à ta place? Qu'est-ce que tu aurais répondu, toi? Imagine, mets-toi à la place de ces gens de qui on parle. On est en train de te couper en morceaux. Pas d'anesthésie, rien. Si on t'arrache une dent, tu vendrais ta famille contre la douleur. Là, on te découpe en morceaux et on te demande, est-ce que tu aimerais être chez toi à l'abri, sain et sauf? Et Mohammed, ton prophète, celui que tu suis, il est là à ta place. فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ آمِنًا فِي أَهْلِي وَمُحَمَّدٌ يُشَاكُ بِشَوْكَهُ. Il a dit, je n'aimerais pas être chez moi en sécurité avec ma famille. Et Mohammed est piqué par une épine. Est piqué par une épine. Alors Abu Sufyan recule de quelques pas. Ébahi par ce qu'il vient d'entendre. Et il dit, ma ra'aytu ahadan yuhibbu ahada ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Je n'ai jamais vu quelqu'un aimer quelqu'un comme les compagnons de Mohammed ont aimé Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. En plus de cela, sachez que les compagnons radiallahu anhum honoraient et portaient une considération immense à l'égard du prophète alayhi salatu wassalam. Ils avaient un respect envers lui incomparable. Al-Bukhari nous rapporte, d'après Urwa ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Urwa, lorsqu'il nous raconte cette histoire, n'était pas encore musulman, il s'est converti par la suite. Urwa ibn Mas'ud était un des émissaires de Quraysh. Car comme vous le savez, les musulmans et les mécréants de la Mecque ont fait un pacte, une trêve, dans laquelle ils ont stipulé que pendant 10 ans, il n'y aurait plus de guerre entre eux. Et comme vous le savez, mes frères, les mécréants de Mecca ont rompu ce pacte. Alors, Quraysh a envoyé Urwa ibn Mas'ud comme émissaire à Médine dans le but de négocier avec le prophète alayhi salat wa salam pour ne pas riposter. Mais Urwa, quand il arrive à Médine, il voit des choses qu'il n'a jamais vues ailleurs. Qala ma tanakhama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nukhamatan illa waqa'at fi yaday ahadihim fadallaka biha wajhahu wa jasadah. Wa laqad ra'aytuhum وكادوا يقتتلون على وضوئه وما كان أحدهم يتكلم وهو يتكلم. عروة نجي j'ai vu le prophète عليه الصلاة والسلام, tu vois que tu craches pour éjecter une glaire dans ta gorge. Il a dit, le prophète crachait avec sa glaire. Et ce crachat n'arrivait pas par terre. Mais il y avait un compagnon qui avait plongé pour l'attraper entre ses mains, pour se masser avec le corps et le visage. Et presque les compagnons allaient s'entretuer quand le prophète faisait ses ablutions dans le but de récupérer l'eau qui coulait de ses membres. Et il a dit, je n'ai jamais vu un parmi eux qui élevait la voix en présence du prophète alayhi salat wa salam. Et quand il parlait, وَإِذَا قَامَ فِيهِمْ خَطِيبًا مَحْتَاجَ إِلَى تَسْكِيتِهِمْ أَوْ إِسْكَاتِهِمْ. Il disait, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait en tant qu'orateur devant eux lorsqu'il prenait un discours, il n'avait pas besoin de les faire taire. Le silence absolu. Il y avait un sahabi, si je ne me trompe pas, il s'appelle Thabit ibn Qais, radiallahu anhu, qui était un des prêcheurs du prophète, alayhi salat wa salam. Et avant de faire son prêche, il se tenait debout devant le prophète, alayhi salat wa salam, et lui disait le prêche qu'il allait dire aux autres, pour que le prophète, alayhi salat wa salam, le corrige s'il y a des choses à corriger. Et il élevait sa voix. Plus tard, Allah tabaraka wa ta'ala révèle à son messager du Coran et lui dit, Ya ayyuha alladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi, wa la tajharu lahu bil qawl, ka jahri ba'dikum li ba'd, an tahbata a'malukum wa antum la tash'uru. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de celles du prophète, alayhi salat wa salam. Et ne l'interpellez pas comme vous vous interpellez les uns les autres. Car ça amènera à l'anéantissement de vos œuvres sans que vous ne vous en rendiez compte. Quand le verset a été révélé, Thabit ibn Qais radiallahu anhu, il s'est dit halakt. C'est-à-dire khlas. Je suis fini. Moi, je parle plus fort que le prophète, alayhi salat wa salam. Les frères, rapprochez-vous, barakallahu fikum. Serrez-vous. Thabit ibn Qais radiallahu anhu, dans le verset, il se dit, il me concerne. Quand je parle au prophète, je parle plus fort que lui. Ça y est, mes actions sont vaines. Je vais aller en enfer. Alors, Thabit était tellement triste d'avoir compris ce verset ainsi qu'il ne sortait plus de chez lui. Il restait chez lui à pleurer, à pleurer, à pleurer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam remarque son absence et demande après lui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, il informe de l'histoire de Thabit ibn Qais. Il dit aux sahaba radiallahu anhum, allez le voir et dites-lui que ce verset ne le concerne pas et annoncez-lui qu'il fait partie des gens du paradis. Et annoncez-lui qu'il vivra honoré, qu'il mourra martyr et qu'il ira au paradis. Amr ibn al-As, ou le hadith fi sahih et muslim, nous raconte juste avant de mourir, radiallahu anhu, il était en train d'agoniser sur son lit et parler aux gens qui étaient autour de lui. Il leur a dit, je n'ai jamais aimé quelqu'un comme j'ai aimé le prophète alayhi salat wa salam. et je n'ai jamais réussi à le regarder longtemps, tellement je le respectais, à un point où, si quelqu'un me demande de le décrire physiquement, j'en serai incapable. J'en serai incapable. Il avait tellement un grand respect envers le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il n'osait pas le regarder longtemps dans les yeux. Il le regardait, il baissait la tête directement. Il ne remplissait pas son regard de la vision du prophète, alayhi salatu wassalam. Et les histoires, mes frères, sur ce point-là, sont très nombreuses. Les jours passent, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est rappelé vers son Seigneur, et choisit de rejoindre le compagnon ultime, Allah Azza wa Jal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il meurt. Et avec lui, la révélation est finie. Car il était le dernier prophète qui a été envoyé à l'humanité. Il n'y a plus de révélation après lui. Anas radiallahu anhu, il nous décrit ce jour fatidique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il nous dit, lamma qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-madinah, أضاء له أو أضاء منه كل شيء أضاء منه كل شيء ولما توفي أظلم منه كل شيء. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, toute chose a été illuminée par lui. Et lorsque il mourut, toute chose a été assombrie par sa perte. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. يجي رضي الله عنه est-ce qu'une catastrophe est équivalente? Est-ce que la catastrophe de la perte de quelqu'un est équivalente à la catastrophe qu'a connue les musulmans lorsqu'ils ont perdu Muhammad? Et personne parmi ceux qui nous ont précédés n'a perdu quelqu'un comme Muhammad. Et personne parmi ceux qui viendront après nous ne perdra quelqu'un comme lui. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, إذا أصيب في معنى الحديث إذا أصيب المسلم بمصيبة فليتعزى بمصيبته أو فليتعزى من مصيبته بي فليس هناك مصيبة أعظم من مصيبتي. قلت لدي عسن في معنى الحديث lorsque le croyant est touché par une catastrophe, par une perte, qu'il cherche consolation entre guillemets, dans ma perte à moi. Car il n'y a pas une catastrophe qui touche le musulman qui sera pire que le fait d'avoir perdu le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il meurt. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, le succède. Abu Bakr, comme on l'a dit, était le meilleur des musulmans. Le meilleur des êtres humains après les prophètes et les messagers. C'est lui. Lorsqu'il arrive dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam et qu'il veut adresser un discours aux musulmans, il se dirige vers le minbar. Il monte sur la première marche et il se rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur ce minbar. Alors il éprouve de la pudeur à s'installer au même endroit. Et il reste sur la première marche. Ensuite, il dit aux musulmans أما وإنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مقامي هذا فغلبته عيناه ولم يستطع أن يكمل فأعادها ثانيا أما وإنكم لتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مقامي هذا فغلبته عيناه ولم يستطع أن يكمل فأعادها ثالثا وقال أما وإنكم لتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مقامي هذا وقال عليه الصلاة والسلام إن الله ما أعطى أحدا شيئا أعظم من العفو والعفية والعافية فسلوها الله تبارك وتعالى. الذي أبو بكر رضي الله عنه certes, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu debout là où je me tiens actuellement debout. Et ensuite, il a été battu par ses larmes et n'a pas réussi à continuer de parler. Il a pleuré longuement parce qu'en disant cela, il s'est remémoré les nombreuses fois où il a vu le prophète alayhi salatu wa sallam debout en train de parler aux gens. Et là, le prophète, il est parti, il est mort, alayhi salatu wassalam. Alors, il répète une seconde fois la même chose. Et une deuxième fois, il n'arrive pas à finir sa parole. Et est battu par ses larmes. Alors, il répète une troisième fois la même chose. Et là, il se force et il dit. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, Allah n'a pas donné une chose à quelqu'un plus grande et plus immense que l'absolution et le bonheur. Quand je dis le bonheur, c'est l'afia, c'est le bien dans toutes choses, dans la santé, dans les biens, dans la fortune, dans la famille et autres. Demandez donc là à Allah Azza wa Jal. Et comme vous le savez, mes frères, Bilal, radiyallahu anhu, était le muazzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut, Bilal décida de quitter Médine et de s'installer dans le Cham, cette région qui est au nord de la péninsule arabique, qui actuellement compte la Syrie, la Jordanie, la Palestine, le Liban. Il s'est installé là-bas. Parce que toute chose à Médine lui rappelait le prophète, alayhi salat wa salam. Et il lui arrivait de temps en temps de voyager vers Médine. Et chaque fois qu'il allait à Médine, les gens le harcelaient et insistaient auprès de lui pour qu'il leur fasse l'adhan. Parce que dès que le prophète alayhi salatu wassalam mourut, Bilal n'a plus fait l'adhan. Et lorsque les gens insistaient auprès de lui pour qu'il fasse l'adhan, il refusait. Et un jour, qu'ils ont longuement et fortement insisté, Bilal, radiyallahu anhu, accepta leur requête. Il prit donc place et se mit en position et commença l'adhan. Et lorsqu'il arrive à Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il n'a pas réussi à finir. Et tout le monde s'est rappelé les jours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde a pleuré avec lui. Et ils ont dit qu'on n'a jamais vu un jour à Médine où les gens ont pleuré comme ce jour-là. Après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, et Bilal radiyallahu anhu, avant de mourir, avait à ses côtés son épouse qui pleurait et qui criait wa huzna. Oh, quelle tristesse de te perdre, oh Bilal. Et Bilal radiyallahu anhu, il répondait wa taraba. Quelle joie Alors elle lui disait pourquoi? Et lui il disait Radan Nalqal Ahibba Muhammad wa sahba. Demain, on va retrouver nos bien-aimés, Muhammad et ses compagnons. Cette parole-là a été répétée par de nombreux compagnons, radiallahu anhum, juste avant de mourir. Ils étaient contents de mourir, parce qu'enfin ils allaient rejoindre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il les a quittés, en mourant. Mes frères, il y a certains compagnons du prophète qui ont été préservés et sauvés par Allah Azza wa Jal dans l'amour qu'ils avaient envers le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a un compagnon qui était un des protégés du prophète alayhi salatu wassalam, il a pris à sa charge. Il s'agit de Mahran ibn Abdirrahman qui se faisait appeler Safina. Safina, mes frères, ça veut dire le bateau. Parce que, on l'a appelé comme ça. Parce que pendant le retour d'un voyage, les gens avec la fatigue n'arrivaient plus à porter leurs bagages. Et Mahram a proposé de porter à tous leurs bagages. Et avec le poids, ils tanguaient comme tangue un bateau. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, en présentant avec lui, a dit, Anta Safina. Il lui dit, tu es un bateau, entre guillemets, et depuis, tout le monde l'appelait Safina. Après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, Safina, comme de nombreux compagnons, radiallahu anhum, ont voyagé et ont quitté Médine, et ont participé aux conquêtes islamiques des différents pays voisins. Safina, radiallahu anhu, il a été dans l'empire byzantin. Et alors qu'il cherchait une ville, il s'est perdu. Il s'est perdu. Jusqu'à ce qu'il rentre dans une forêt. Et voici qu'un lion sort et tombe nez à nez avec lui. Et les Arabes, dans leur culture, aimaient beaucoup les lions. Et lorsque les Arabes aimaient une chose, ils lui donnaient de nombreuses appellations. Al-Asad, Al-Ghadanfar, Al-Abbas, Al-Qaswara wa ghayru dhalik. Et en plus de ces appellations, lui donnait aussi des kunyas. Et la kunya du lion chez les Arabes, c'est Abul Harith. Alors Safina, il voit le lion arriver devant lui se mettre à grogner. Mais après, est-ce que tu as déjà vu un lion? Il n'y a pas longtemps, il y a un cirque qui est passé près de chez moi. Et ils avaient leur remorque, enfin leur... Les remorques, naam, dans lesquelles on voyait leurs animaux. Moi, c'est la première fois que j'ai vu un lion ce jour-là. Enfin, j'en avais vu un au Maroc, mais il ressemblait plus à un chat avec des cheveux qu'à un lion. J'ai vu le lion, j'étais impressionné tellement il était immense. Sa tête seulement, je crois, faisait mon buste entier. Je l'ai trouvé immense. Je dis, subhanallah, c'est ça un lion? Alors Safina radiallahu anhu, elle est confrontée à un lion tout seul dans la forêt. Tu cours, il court plus vite que toi. Tu veux te battre, il est plus fort que toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Safina radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il lui dit? Chef subhanallah. Ha'oula et Rijal, comment ils étaient? Il lui dit, Ya Abul Harith, ana Safina tu mawla rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'appelle Ya Abul Harith. Je suis Safina, le protégé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui se passe? Fata'ata al-asad ra'sah. Le lion, il baisse sa tête. Wa taqaddama bayna yadayhi hatta dafa'ahu bi ra'sih. Et il a baissé la tête et il a avancé. Jusqu'à arriver à son niveau, et il s'est mis à le pousser avec sa tête. Il le poussait. Comme s'il voulait lui faire comprendre, marche dans la direction vers laquelle je te pousse. Alors, Safina se met à marcher, et le lion toujours derrière lui, il le pousse avec sa tête. Jusqu'à ce qu'il retrouve son chemin. Lorsqu'il arrive au chemin, sa funa regarde le lion, et le lion une fois encore il baisse la tête. وطأطأ الأسد رأسه مرة أخرى وهمهم بكلام كأنه يودعني. Le lion, une fois de plus, il a baissé la tête et il a murmuré un bruit comme s'il me faisait ses adieux. Et il est parti. Sauf, subhanallah, un lion qui est une des bêtes les plus féroces et les plus farouches. Entend le nom du prophète alayhi salatu wassalam et oublie toute violence et oublie toute férocité et se met au service de celui qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les histoires, mes frères, sont très nombreuses. Mais sachez, comme on l'a dit au départ, que après les compagnons radiallahu anhum, les hommes qui ont vécu dans les meilleurs siècles de l'islam, Aslafuna as-salihun, les pieux prédécesseurs, ont hérité cet amour de la part de leurs professeurs qui sont les compagnons radiallahu anhum. Exemple, l'imam Malik ibn Anas, imam Dar al-Hijra, rahimahullah, il raconte à ses élèves qu'il n'a jamais respecté quelqu'un comme il a respecté Ayyub al-Sikhtiyani, rahimahullah. Ayyub al-Sikhtiyani était un de ses professeurs. Il a dit, j'ai fait le pèlerinage avec lui. J'ai voyagé avec lui et au départ, je ne m'intéressais pas à lui. Jusqu'à ce que je le vis rapporter des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et il n'y a pas une fois où ses lèvres prononçaient le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il ne fondait en sanglots et en larmes. À un point où les gens qui étaient en sa compagnie se levaient et partaient par miséricorde envers lui. Et l'imam Malik, rahimahullah, il a rapporté la même chose de la part d'un autre de ses professeurs qui s'appelle Muhammad ibn al-Munkadir, rahmatullahi alayhi, qui chaque fois qu'il prononçait le nom du prophète, alayhi salatu wassalam, n'arrivait pas à finir. Combien de fois nous on dit le prophète? Ça nous fait quelque chose? Des élèves de l'imam Malik, rahimahullah, ils étaient frappés à sa porte. Et il leur envoyait sa servante. Elle leur disait, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez l'ahkam, c'est-à-dire des règles concernant le fiqh, les adorations, ou bien, est-ce que vous voulez des hadiths? Alors il disait, on veut des hadiths. Alors, elle disait, il arrive. Et un moment il passait, l'imam Malik il arrivait, rahimahullah, avec un teint propre, une odeur, une belle odeur qui s'émanait de lui, et des vêtements neufs. Alors, un parmi les présents l'interroge. Il dit, Cheikh, pourquoi quand tu interroges sur l'ahkam, tu viens directement sans te changer? Et lorsque te parle du prophète, lorsque te demande de nous dire des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, tu prends du temps, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, lorsque je dois parler du prophète, alayhi salatu wassalam, il faut que je sois dans la meilleure attitude. Alors je prends un bain, je me parfume, je mets mes plus beaux habits et je viens à vous. Car c'est ainsi que l'on doit être lorsqu'on parle du prophète, alayhi salatu wassalam. Mes frères, sachez, après tout cela, que le cœur du croyant doit conclure deux choses. Premièrement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mérite plus que quiconque à ce que tu l'aimes plus que quiconque. Et deuxièmement, tu as vu, ou du moins tu as eu un aperçu de l'amour des compagnons radiallahu anhum envers le prophète alayhi salatu wassalam. Compare-toi maintenant comment tu aimes le prophète alayhi salatu wassalam. On rajoutera une troisième chose, c'est qu'entendre un tel discours va augmenter en nous l'envie d'être avec le prophète alayhi salatu wassalam. Qui parmi nous, mes frères, n'a pas l'espoir de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve? Qui parmi nous, mes frères, n'a pas l'espoir d'être ressuscité avec le prophète alayhi salatu wassalam? Qui parmi nous, mes frères, n'a pas l'espoir d'avoir l'immense privilège de boire du bassin du prophète alayhi salatu wassalam avec de l'eau qu'il aura pris entre ses mains? Qui parmi nous, mes frères, n'a pas l'espoir d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis? Et même si, supposons que tu n'as pas cet espoir, ce qui pour ma part et la vôtre me paraît impossible, ben sache que le prophète alayhi salatu wassalam, lui aussi, a eu envie de te voir. Sache que le prophète alayhi salatu wassalam, lui aussi s'est langui de pouvoir te rencontrer. Le prophète dit alayhi salatu wassalam, inna min ashaddi ummati li hubban qawman yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Wadija alayhi salatu wassalam, les gens de ma communauté qui m'aiment le plus sont des personnes qui aimeraient, qui auraient aimé pour me voir donner leur famille et tout ce qu'ils possèdent. Et dans notre hadith, le prophète dit, alayhi salatu wassalam, ya laytani ra'aytu ikhwani. Si seulement j'avais vu mes frères. Alors les sahaba radiyallahu anhum, ils s'étonnent. Ils disent, ya Rasulallah, awalasna ikhwanak. Ne sommes-nous pas tes frères? Faqala alayhi salatu wassalam, la, ou bal antum ashabi. وَإِنَّ إِخْوَانِي قَوْمٌ يَأْتُونَ بَعْدِي يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي. Il dit aux compagnons, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont des gens qui viendront après moi et qui croiront en moi sans m'avoir vu. Qu'est-ce que ça aurait été, Yahri, si tu l'avais vu? Qu'est-ce que ça aurait été? Si tu t'étais assis avec lui, qu'est-ce que ça aurait été s'il avait parlé avec toi? Qu'est-ce que ça aurait été s'il avait invoqué Allah pour toi? Qu'est-ce que ça aurait été si sa main aurait touché la tienne? Bi abi huwa wa ummi. ولكن لا تحزن. Ne sois pas triste. Parce que si tu as aimé le prophète alayhi salatu wassalam sans le voir, et que tu as suivi sa sunna au maximum du plus que tu peux, même si tu n'as pas autant d'action que ses compagnons, même si tu n'es pas aussi pieux qu'eux, eh ben tu seras avec lui au paradis, Henri. قال أنس في الحديث الصحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله إني لأحبك وأحب صحبتك فأقول في نفسي ونسرد الحديث بالمعنى أن الله تبارك وتعالى لو تكرم علي بأن يدخلني الجنة فأخشى أن لا أكون معك في نفس الدرجة، فكيف تكتمل فرحتي؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتعلقون بشفتيه ينتظرون الجواب. فجلس الرجل، وبعد حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل آنفا، فقال ها هو ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وأنزل الله تبارك وتعالى قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Anas nous rapporte radiallahu anhu qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Ya Rasulallah, wallahi, je t'aime et j'aime être en ta compagnie, mais lorsque je pense au jour du jugement et je me dis que si Allah me fait entrer au paradis, eh ben je crains de ne pas être avec toi dans le même degré. Ici je peux te voir comme je le veux, mais là-bas je ne pourrai pas. Alors ma joie ne saurait être parfaite et complète. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste silencieux après cette parole. Et les sahaba radiallahu anhum s'accrochent à ses lèvres, attendent la réponse. Un peu plus tard, le prophète il demande où est celui qui a posé la question tout à l'heure. Allah lui dit je suis là. Le prophète lui répond Naam. Le prophète lui répond alayhi salatu wa sallam, la personne sera avec celle qu'elle a aimée. Et Allah Ta'ala a révélé sa parole dans le Coran où il dit « Et celui qui obéit à Allah et au messager sera certes avec ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits parmi les prophètes et les véridiques et les martyrs et les pieux. Et quelle meilleure compagnie que celle-ci. Voici l'agrément et la grâce d'Allah. Et Allah suffit comme savant. » Ya akhi, tu veux être avec le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'Allah n'a pas décidé pour toi que tu sois avec lui ici-bas, alors retrousse tes manches et suis sa sunnah au maximum et crains Allah du mieux que tu peux et tu seras avec lui en al-qiyamah et tu seras avec lui dans le paradis. هذا ما تيسر إيراده وأعان الله على قوله وما كان فيه من توفيق فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله من ذلك براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه واسمحوا لي وأعتذر على الإطالة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم.